Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marine Digabel.
Bonjour, nous allons aujourd'hui aborder le thème de la biométrie. Nous accueillons pour cela le professeur Emmanuel Cabanis, correspondant de l'Académie nationale de médecine et président de la Société de biométrie humaine. Professeur Cabanis, bonjour.
Bonjour Madame Digabel, merci de m'avoir invité. C'est une joie et un honneur, bien sûr, que d'être invité dans votre illustre maison et sur cette chaîne de radio que j'ignorais.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Quand on parle de biométrie, on pense papier d'identité et forcément on pense passeport biométrique, ce fameux sésame sans lequel on ne rentre plus aux États-Unis. Alors l'identité du titulaire est stockée sur une puce, mais c'est davantage des modalités de lecture de la puce que vient la nouveauté, puisqu'on peut la lire sans l'insérer dans un lecteur, ce qui pose un certain nombre de questions sur la confidentialité des données qui y sont stockées. Le mot biométrie qui est au cœur de ces nouveaux papiers d'identité vient à l'origine du grec, hein, du mot bios, la vie, et métron, la mesure. Et puis, il a été adapté dans diverses langues, dont l'anglais, avec le terme biometrics, qu'on n'utilise pas exactement comme le terme biométrie en français. En français, ce mot biométrie signifie variation biologique à l'intérieur d'un groupe donné. Alors, on le voit, on est loin de ces questions de papier d'identité quand on définit précisément la biométrie. On date souvent l'origine de la biométrie de la fin du 19e siècle. Pourriez-vous nous en dire davantage sur les origines de cette discipline ?
C'est comme tous ces événements scientifiques, ils sont d'origine multiple. C'est un foisonnement des idées dans les pays, dans l'espace et dans le temps. C'est l'aboutissement de beaucoup de réflexions. Qui fut le premier en quantifiant des plantes, c'était Linné, c'était le XVIIIe siècle, en les classifiant. Est-ce que Darwin, avec sa classification des espèces, est intervenu ? Est-ce que les anatomistes du XVIIIe et du XIXe siècle, en commençant à mesurer très attentivement des morceaux de squelette, sont-ils, chacun pour ce qui le concerne, l'inventeur de la biométrie ? Donc c'est un foisonnement global dans lequel une période compte, c'est le 19e siècle. À partir des années 1830-1850, la France y a joué un rôle tout à fait déterminant à travers l'un de ses très illustres scientifiques du nom de Broca. Son prénom était Paul. Il est né en 1824, il est mort en 1880 et l'Académie nationale de médecine a fêté le centenaire de sa mort. Il y a donc 26 ans de cela, j'y étais, j'avais cette chance. Mon patron en anatomie, je suis aussi professeur d'anatomie en plus de radiologie, eh bien mon patron, André Delmas, m'avait élevé dans la connaissance de ce tournant des savoirs en matière du corps humain. Paul Broca, né à Sainte-Foy-la-Grande, dans un petit, dans une toute petite ville, est l'homme qui, à la fin du 19e siècle, enfin entre 1825-30, arrivé de Sainte-Foy-la-Grande à Paris, a commencé ses études de médecine brillamment. Il fut interne des hôpitaux, puis chirurgien des hôpitaux. Et il a eu, à partir de l'âge de 30 ans environ, une existence qui est celle des chefs de service, des patrons de la chirurgie, le matin à l'hôpital, ça se passait à l'hôpital de Bicêtre, et l'après-midi au laboratoire où il étudiait l'anatomie, mais pas en la décrivant, en la mesurant. Paul Broca a fondé, 15 ans plus tard, en 1857, la Société d'anthropologie. C'est le mot que l'on donnait, anthropos, logos, l'homme, on parle de l'homme, on ne parlait pas encore d'anatomie, sauf d'anatomie pathologique. En tout cas, Paul Broca réunit autour de lui des gens passionnés par le même discours, et c'est son activité scientifique exactement complémentaire de son activité de chirurgien le matin. Comme d'autres, il va commencer par s'occuper de la tête. Et il va mesurer ce qui reste après la mort de la tête, c'est-à-dire le crâne. Il va aller travailler au Muséum national d'histoire naturelle, il va chercher des crânes, il va les mesurer pendant 20 ans, pendant 30 ans. Elle a fait des centaines de milliers de mesures en reportant dans des petits cahiers merveilleux au crayon les mesures et surtout en ayant une vision d'intelligence du système. Très vite, il découvre que la statistique est l'élément majeur de la mesure, qu'il ne faut pas accumuler des millimètres et des centimètres, non. Il découvre qu'il, et ça c'est une découverte intelligente, qui consiste à dire qu'il faut prendre la petite mesure divisée par la plus grande et la multiplier par 100. Et comme ça, on se débarrasse du millimètre, on fait un rapport, on fait un ratio, on fait un indice. Et c'est comme ça que dans les mêmes époques, un certain monsieur Retzius va définir les dimensions de la tête en divisant la largeur multipliée par la longueur, et puis en multipliant par 100, ça donne un chiffre positif. Les indices sont nés et puis de cela vont naître des instruments qui vont permettre de mesurer le crâne, son angle, son volume, l'ensemble, jusqu'à définir un certain nombre de points précis qui vont permettre d'établir ces mesures et puis de mesurer les volumes. Et c'est comme ça qu'une école d'anthropologie va naître à Paris, rue de l'École de médecine, dans l'école pratique des hautes études, avec un certain nombre de gens qui vont faire une société d'anthropologie limitée à 20, d'abord, pour des raisons de politique de l'époque, pas plus de 20 personnes dans une société. Et puis, il y aura 257 personnes quelques années plus tard, à la fin du 19e siècle.
Est-ce qu'on a pu, avec ces études, déterminer des caractéristiques du crâne humain, par exemple ?
Exactement, ça a été la période initiale de ces mesures du corps humain où on a fait des groupes, on a fait des séries. Et quand on essaye de raisonner de manière logique, eh bien, on s'aperçoit, en les posant sur une table, et c'est simple comme tout, ces crânes, on les pose, ou même par terre, on les voit d'en haut, eh bien, il y en a qui sont ronds, aussi large que long. Il y en a qui sont longs, la longueur domine sur la largeur, et inversement, il y a des crânes très courts, plus courts que longs, et ce qu'on appelle, avec des mots grecs, des racines grecques toujours, des brachicrânes, de brachus, court, ou des dolicocrânes, de dolicos, long, ou des mésocrânes, qui sont des crânes moyens. Et comme ça, on divise les observations qu'on a d'abord de manière précise, parce qu'on a mesuré, et ensuite dans des groupes distincts.
Est-ce comme ça que l'idée de la biométrie comme outil d'identification est née ?
Non, car c'est ça la biométrie. C'est mesurer, ce fut d'abord des crânes, certes, mais ensuite ce fut le vivant, avec les outils de la médecine contemporaine. Je suis aussi professeur de radiologie à Paris 6, c'est comme cela que mon scanner à rayons X ou mon imageur par résonance magnétique en IRM transforme toute l'anatomie du corps humain en chiffres. Donc, des doubles décimètres du 19e siècle à la résonance magnétique nucléaire du 21e, eh bien, le pont est établi. Nous faisons du corps humain un ensemble de chiffres qui permettent de réaliser très précisément ces dimensions en surface, mais aussi ces dimensions en volume et ces dimensions internes à travers ces techniques d'investigation. Et ces mesures-là qui constituent la biométrie tout entière.
Alors, les applications de la biométrie, parmi lesquelles l'identification, sont nombreuses. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ?
Très vite, on s'est aperçu que, en mesurant ainsi, en ayant cet ensemble de mesures, eh bien, derrière la mesure, on obtenait des fichiers. Et c'est ces fichiers qui vont rejoindre immédiatement une application de ces mesures du corps humain, c'est-à-dire les applications de police, c'est-à-dire ce que ce monsieur Bertillon, frère du docteur Bertillon, va mettre en application à côté de Paul Broca, c'est-à-dire de voir comment, avec ces points extrêmement précis mesurés sur un visage, c'est la photographie qui vient de naître, c'est prise dans certaines angulations, comme vous le savez, de face, de profil, vous vous souvenez, hein, on met vous avez vu ces photographies anthropométriques, eh bien, c'est comme ça que cet homme intelligent Bertillon va dire, mais on va cesser de décrire un individu avec une plume, on va faire une photographie de sa tête, de face et de profil. Et comme ça, on va faire un fichier en même temps en le décrivant. Pourquoi ? Parce qu'un individu qui a volé, il faut l'arrêter. Et s'il vole à nouveau, il faut savoir ce qu'il est. Identification d'un côté, nous le reverrons avec l'authentification qui suit. Donc, cette application de la biométrie précise fut aux origines à côté des savants, fut une origine policière que vous citez vous-même en évoquant l'arrivée sur le territoire des États-Unis en traversant la douane à Chicago il y a quelques mois. Vous devinez mon émotion quand j'ai eu à poser mon doigt sur un petit récepteur voyant ma dactylographie de l'index du médius de la main droite. Et puis, quand j'ai eu la sensation d'être observé, j'ai levé la tête. Effectivement, il y avait la micro-caméra qui m'observait. En même temps, je voyais l'écran de l'agent de police qui me vérifiait. Donc, le saut qui a été fait a été le saut de l'informatique. Et c'est ça qui a totalement transformé cette mesure du corps humain, cette biométrie qu'on faisait avec des doubles décimètres, puis qu'on a fait avec nos outils de numérisation, du scanner à rayons X à la résonance magnétique, mais qu'on a transformé avec cette arrivée de l'informatique et de ses capacités de mémorisation fabuleuses, aux téraoctets, aux capacités de croisement, d'engrangement de données dans tous les ans, qui ont fait que du coup, on savait mettre une photographie numérique à côté d'une autre photographie numérique, une empreinte digitale à côté d'une autre, jusqu'à constituer des fichiers de 45 millions, de 70 millions, comme vous le savez aux États-Unis. Ces fichiers informatiques très lourds sont donc de ces techniques de reconnaissance biométrique.
Les progrès de l'informatique ont permis de faire progresser la biométrie en tant que telle. Dans quelle mesure ?
Définitivement. Le crayon et les petites colonnes de Paul Broca dont je vous parlais au XIXe siècle, ces calculs statistiques, où on essayait de définir des courbes gaussiennes d'un individu moyen. Je ne parle pas d'un individu beau ou d'un individu laid, non, des moyennes constatées dans la population, eh bien, de savoir, sans avis critique, eh bien, l'outil fut d'abord l'outil statistique de significativité, de variabilité, mot-clé de la forme humaine, tout ça ce sont des questions de forme du corps humain, cette variabilité était calculée jusqu'au moment où on a pu engranger, grâce à l'informatique, cet ensemble de données. Informatique qui fait dire à certains, l'informatique fut à la biométrie est à l'informatique ce que fut l'électricité à la vapeur comme source d'énergie. Il est évident que on est entré dans un nouveau monde qui nous concerne tous. Lorsque j'expliquais que les radiofréquences sont un bain dans lequel nous sommes immergés, pour ceux qui le craignent. De la même manière, nous sommes dans le bain de l'informatique qui nous numérise complètement aujourd'hui.
J'aurais une question sur l'ADN. Peut-on considérer qu'il rentre dans le champ des études biométriques ?
Hélas, je ne peux pas vous donner la réponse tout de suite. Ayez la patience et la bonté d'attendre. En effet, ce matin même, à l'Académie nationale de médecine, avait lieu la réunion du groupe de travail intitulé « Identification et de la personne par les techniques de la biométrie et de la génétique ». Pourquoi ce titre un tout petit peu long ? Eh bien parce que le rapport de l'OPECST, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, présidé par mon ami Christian Cabal, professeur de pneumophysiologie dans l'Université de Saint-Étienne et simultanément rapporteur de l'OPECST en tant que député, eh bien, ce rapport mettait de côté complètement l'ADN.
Je vous propose de marquer une courte pause avant de nous retrouver pour la suite de notre émission. Nous retrouvons le professeur Cabanis au sujet de la biométrie. Alors, nous en étions aux relations entre la biométrie et la génétique.
Cette année, nous avons dit à l'Assemblée nationale que l'orientation de notre travail était justement celui d'un approfondissement des données possibles à acquérir à travers la génétique. Vous avez évoqué l'ADN, mais il y a autre chose, on peut aussi évoquer la protéomique, comme l'un de mes bons collègues l'évoquait il y a quelques heures à l'Académie.
Pourriez-vous définir ce que c'est ?
Non, parce que ce n'est pas le lieu, je ne vais pas vous ennuyer avec les notions de séquences et de gènes ou de protéines. D'abord, je n'en serais pas capable, je ne suis pas généticien, je me suis présenté, mais indiscutablement, il y a là une discussion qui doit naître et qui doit être exposée au grand public afin de faire baisser les peurs, baisser les craintes qui sont toujours les mêmes, celles de l'inconnu.
Est-ce qu'on pourrait détailler plus précisément quelles sont ces craintes ? Parce que la biométrie, ou plutôt ses applications, suscitent des débats vifs.
Vous avez parfaitement raison, je les ai vécues. Vous avez évoqué Inès tout à l'heure. Eh bien, j'ai été invité dans ce Tour de France d'Inès, comme vous le savez. Il y avait cette confrontation dans plusieurs villes de province entre des gens évoquant cette nouvelle carte d'identité et le grand public. Ce qui m'a frappé, c'est que les gens, pour leur majorité, attendent de comprendre, attendent de savoir de quoi ils retournent. Et puis, comme toujours, il y a un petit groupe très, très pointu et très hostile, qui n'a pas très compris et qui est très opposant, et puis un autre qui, à l'inverse, essaye de comprendre. Mais la réponse globale est simple. Big Brother, George Orwell, 1984. Et d'ailleurs, tout le monde oublie que George Orwell a écrit Big Brother bien des dizaines d'années avant 1984.
En 48.
Merci beaucoup, je vous laissais la maternité de cette date. Et le Big Brother est erroné, car Big Brother a oublié ce côté de l'informatique que moi, médecin, je comprends et que j'essaye d'expliquer autour de moi. Cette capacité de l'informatique à apporter un secret. Il y a 25 ans, j'ai été un des premiers de France à m'occuper de scanners à rayons X. Je suis le promoteur français de l'imagerie par résonance magnétique. J'ai donc eu cet honneur de rencontrer la présidente de la CNIL dans les années 78. Et je disais à cette dame, mais c'est une catastrophe. Si notre corps humain est en chiffres, cela fait des fichiers et nous avons des disquettes, puis des bandes. Et j'ignorais qu'on aurait les gros disques que nous avons maintenant de quelques téraoctets. Et cette dame, tout à fait brillante, conseiller d'État, forte au fait de cet ensemble, a dit, mais détrompez-vous complètement. Mais, monsieur le professeur, ce n'est pas du tout le danger de l'informatique. Au contraire, n'oubliez pas que vos patients, aujourd'hui, ont des dossiers dans les couloirs qui traînent avec du papier mis en accession possible à tout venant, alors que l'informatique est une manière de garder et de protéger un secret, ce qui était vu avec les clés, avec les ensembles, et ce que nous vivons tous les jours, chacun d'entre nous, comme citoyen, avec, par exemple, le secret bancaire. C'est cet autre aspect de l'informatique qu'on oublie toujours de mentionner, qui, moi, m'avait frappé et m'avait soulagé il y a 30 ans, que j'aime bien diffuser autour de moi. L'informatique est un outil fantastique. Les fichiers, nous en avons besoin pour vivre, pour manger, pour les médicaments. Nous avons besoin. Un exemple me vient en matière d'application des techniques scientifiques de la biométrie. Ce sont les vêtements. Vous devez savoir, madame, que un des travaux de recherche de biométrie qui m'impressionne le plus est un travail de recherche qui a été fait à travers la France. Oh, j'ai peur de me tromper sur la définition précise, par le groupe des industries du vêtement. Et ce groupe des industries du vêtement a eu l'intelligence d'essayer de mesurer la moyenne de la population française à tous les âges adultes de la vie dans différentes régions de France, puisqu'on n'a pas tous les mêmes alimentations. Il y a des plus grands, des un petit peu plus petits. Et pour essayer de savoir quelle est la longueur de manche optimiste, la stature moyenne, l'embonpoint, le tour de poitrine, etc. Et ces gens intelligents ont fait circuler 2 ou 3 cabines dans lesquelles les patients volontaires, les gens qui venaient sur la place du marché ou qui venaient dans le magasin, rentraient avec 4 faisceaux laser croisés, sans que ça ne fasse pas du tout mal, accumulait des données résumant la morphologie du corps humain observé, les gens étant en slip ou en petite tenue, et ceci a permis, là encore, de constituer un fichier pour le meilleur. C'est-à-dire que ces industriels du vêtement sont vraiment maintenant capables de construire ce qu'on appelle le prêt-à-porter, à partir du moment où l'on connaît qui va le porter. Un grand, un petit, un gros, un tassé, un avec des longs bras, un avec des longues jambes, etc. Et ces gens ont terminé un travail de 3 années tout à fait intéressant. Vous l'avez lu dans la grande presse. Le Français moyen grandit, virgule. La Française moyenne grandit, virgule. Les gens deviennent de plus en plus gros. Vous l'avez entendu également. Et c'est ça, une démarche utilisant les techniques de la biométrie que je trouve plaisante parce que tout le monde y gagne.
C'est vrai que ce type de démarche apporte à tous. Enfin, on trouve des vêtements à sa taille. Voilà. En ce qui concerne les applications liées à la sécurité, que répondre aux gens qui craignent les failles des systèmes informatiques ? Je pense en particulier au piratage. Est-ce que c'est un risque à prendre ?
Pardonnez-moi, c'est aux techniciens et aux concepteurs du monde informatique de vous répondre. Ils sont mieux placés. Là, je suis franchement ignorant. Je suis devant ces énormes machines qui engrangent nos images. Encore une fois, ces milliards d'octets, ces téraoctets, vraiment comme un ignorant devant une boîte noire. Donc, en matière de piratage, je ne sais pas répondre. Néanmoins, je vous réponds par une expérience simple de médecin d'une part et de citoyen de l'autre, comme médecin. J'observe qu'à ce jour, vous avez entendu parler de la carte vitale, vous avez entendu parler de notre projet médical, d'avoir un dossier médical informatisé, le DMI, sur lequel tout patient aurait son histoire médicale. Eh bien, paradoxalement, il n'y a pas eu de mouvement quand on a dit, de mouvement de foule dirais-je, quand on a proposé ce dossier médical informatisé. Et c'est du bon sens. On ne peut pas plus se priver de l'informatique individuelle et de constitution de fichiers en 2006 que l'on peut refuser de prendre le train, de se nourrir ou de... Et ça, c'est pour la réponse du médecin, dossier médical, mais aussi en matière grand public. Il est évident que le fichier de la Caisse nationale d'assurance maladie, par exemple, comporte le secret de l'individu au titre des presque 60 millions que nous sommes fichés à la Sécurité sociale. Qui a jamais entendu parler d'une action criminelle sur les fichiers de la Caisse nationale d'assurance maladie ? Les gens travaillent et trouvent des trucs extraordinaires pour verrouiller la sécurité de ces gros ordinateurs. Je ne vous parle pas des ordinateurs du ministère des Finances comme citoyen, mais vous vous souvenez qu'il y avait eu des histoires quelques dizaines d'années à propos des feuilles d'impôt de haute personnalité. Ceci est maintenant protégé. Nous devons avoir une confiance certaine dans le progrès et notamment dans le progrès de la protection contre la criminalité hacker comme d'autres.
Vous nous avez dit que la biométrie consistait à mesurer le corps humain sous tous ses angles. Ces applications permettent d'identifier les individus.
Très bien.
Est-ce qu'on peut utiliser toutes les mesures du nez par exemple, pour identifier un individu ?
Bien sûr, tout est une question de significativité de la mesure réalisée. Est-ce qu'une mesure résume un individu ? Non. Est-ce que votre nez, aussi charmant soit-il, résume votre personne et la forme de votre personne ? Bien sûr que non. Il faut faire plusieurs mesures de plusieurs parties de l'individu et puis en faire des rapports, comme je vous l'ai dit, pour avoir une approche de la forme globale de l'individu. Je vous ai parlé des vêtements. Il faut faire une dizaine, quinzaine de mesures, ne serait-ce que vous êtes en mesure de vous en souvenir. Quand on taille une robe, ou quand vous avez bien vu que votre tailleur, premier homme de biométrie auquel chacun d'entre nous a référence, prend un certain nombre de mesures. De la même manière, il faut plusieurs mesures. Alors, ce qui est intéressant par contre, plus, c'est de souligner les organes sur lesquels vont s'exercer cette identification et cette authentification. Les deux démarches ne sont pas exactement les mêmes, on pourra en reparler tout à l'heure. En tout cas, ce qui est intéressant de savoir, c'est, et là je me fie à ces multiples agences nationales et internationales qui s'occupent de la sécurité des biens et des personnes et qui dépensent des sommes considérables pour essayer de numériser l'individu avec des systèmes qui soient les plus robustes. C'est le terme informatique qui est utilisé, le plus robuste possible. Et c'est comme ça qu'on arrive en gros à une dizaine d'organes ou d'explorations possibles. Et ce que je vous propose, c'est de les énumérer très vite. Si vous voulez des chiffres relatifs, je vous les dirai après.
Je vous propose de marquer une courte pause avant de nous retrouver pour la suite de notre émission.
Environnement, développement durable, énergie verte. Canal Academy vous propose des émissions sur ces thèmes en compagnie d'académiciens des sciences, mais aussi avec des économistes et des historiens. Que ferons-nous sans pétrole? Comment stopper les augmentations d'émissions de gaz à effet de serre? Le nucléaire est-il la solution au réchauffement climatique? Quelle gestion économique de l'eau douce dans les années à venir? Faites le point sur ces questions en téléchargeant nos émissions sur canalacademy.com.
Nous retrouvons le professeur Cabanis pour la liste des organes biométrisables.
Je vous propose, parce que la confusion est très souvent grande et elle entraîne l'angoisse. Donc, je voudrais souligner tout de suite que ces organes sont par définition les organes les moins difficiles d'accès, les moins impudiques possibles, les plus aisés à croiser, c'est-à-dire les plus faciles à rencontrer. C'est comme ça qu'on peut classer en même temps les choses en essayant de montrer combien ils caractérisent l'individu. Ils caractérisent tous, plus ou moins, je vous l'ai dit, ils sont tous plus ou moins universels, plus ou moins uniques. D'abord, c'est l'œil. L'œil a un iris qui est fait de tubes, qui est tout à fait extraordinaire, et qui est vraiment, quand on essaye de calculer des faux positifs, c'est-à-dire des erreurs possibles en plus, ou des faux négatifs, des erreurs possibles en moins, eh bien, cet iris gagne sur tous les scores, car les faux positifs sont 1 pour 1000, 1 pour 10 000, quand on a cette image de l'iris. Alors, comment la voir? Avec une photographie. Une photographie très rapide, mais en même temps agrandie et immobile. Et c'est là où les choses commencent à se gâter, parce que un flash dans l'œil, vous n'appréciez pas, vous ne l'acceptez pas. Vous n'acceptez pas d'avoir commandé dans un appareil de photomaton. Vous savez que ça va vous arriver. Alors que si vous traversez une frontière, les gens ne marchent pas. Alors, en ce moment, et tant qu'il faut des flashs pour voir de près, qu'il faut des grosses lentilles pour voir de près, en tout cas, en ce moment, la technique de très haute sécurité n'est pas acceptée par le grand public. Celle qui vient derrière, c'est l'empreinte digitale. L'empreinte digitale a une aventure extraordinaire. Elle est d'invention britannique. Cette invention britannique du milieu du 19e siècle, certains Galton, a eu cette idée de faire poser le doigt sur un morceau d'encre. Et ça, c'était très fort, car notre épiderme digital, facile à approcher, puisqu'on se serre la main, en shaking en français, eh bien, cette épiderme digital a des crêtes, des sillons, des tourbillons, des vallées, des croisements, bref, un certain nombre de caractéristiques qu'on appelle des minuties. Ces minuties, c'est un mot très joli, sont une caractéristique indiscutable de l'individu de sa naissance à sa mort. Et ces minuties peuvent, grâce à l'informatique aujourd'hui, en augmenter considérablement la fiabilité. On fait une image de recueillie par de la photographie, par des radiofréquences, par des pressions, par des ondes thermiques, par un certain nombre de systèmes. Bref, on a une image agrandie sur un écran de vos empreintes digitales. Eh bien, ces empreintes, on y détermine ensuite 5, 10, 15, 20 endroits particuliers, ces minuties. Eh bien, si on détermine, par exemple, 15 minuties, on va devenir de plus en plus pointu dans notre définition de la forme. Eh bien, dès le 19e siècle, on avait calculé que dans ces cas-là, on avait une chance sur 17 milliards, 4 fois la population de la Terre, c'est quand même beaucoup, hein, de confondre deux empreintes digitales. Oui, mais l'histoire n'est pas aussi simple et n'est pas aussi tranquille, bien évidemment, parce que tout dépend de la technique de recueil de cette photographie, de ce recueil de l'empreinte, d'abord. Ensuite, vous le savez, au fil du temps, il peut nous arriver un tas de choses. On peut se couper, on peut se... Ensuite, si on est un grand criminel de l'histoire, eh bien, on peut se... D'abord, on met des gants pour éviter de laisser ses traces derrière soi, qui ont permis de faire l'identité judiciaire, comme vous le savez, toutes ces traces qu'on laisse derrière nous, des cheveux, des trucs, et nos empreintes digitales, qu'on va essayer de souffler très vite pour les reconnaître. Mais au-delà de cette trace elle-même, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que les gens acceptent. L'acceptabilité de l'empreinte digitale est beaucoup plus grande que celle de l'iris. Sauf que, dans certaines religions, eh bien, ceci est inacceptable, de laisser une trace et d'avoir un doigt au contact d'un certain nombre d'outils, dont de l'encre ou dont des détecteurs ou des capteurs. Et par définition, si on recueille l'empreinte de quelqu'un, on doit respecter son choix. Il est hors de question de forcer cette acceptabilité. Au milieu de cet ensemble-là, il y a des empreintes digitales qui ont un taux de non-négatif quasiment de 1 pour 1000, mais ça va jusqu'à 1 pour 10 si on se contente des techniques d'autrefois un tout petit peu grossières. Naturellement, on peut multiplier les doigts. Et si on met 10 doigts, ce qui est l'objectif du passeport avec les techniques biométriques, l'objectif d'une carte d'identité pour resserrer les chances en plus du nombre de minuties, il est évident que là, on peut être plus efficace. Tout ceci est toujours un compromis entre les coûts des matériels, la demande des matériels, leur sophistication, leur robustesse et leur résistance. Mais il faut savoir que cette empreinte digitale est pour moi, en détection rapide, un outil fascinant. C'est ça qui va faire la domotique de demain. Imaginez que vous n'ayez plus de clé, imaginez que vous n'ayez plus de carte d'identité, que vous n'ayez pas à apprendre par cœur un code. Et Dieu sait que vous l'avez peut-être perdu, votre code de carte bancaire, peut-être un petit peu. Ou que, comme moi, vous soyez fait voler par un affreux bandit qui est retrouvé au palais de justice après et qui a signé mes faux chèques, utilisé ma carte en imitant ma signature. Bref, cet ensemble de l'empreinte digitale est aujourd'hui quelque chose qui est pénalisant. C'est un petit peu de notre liberté qu'on laisse quelque part. Oui, mais c'est une facilitation de vie quotidienne fabuleuse. Si on ouvre notre téléviseur comme ça, si on ouvre le réfrigérateur simplement en posant la main, ou, vous le savez, en démarrant votre automobile en reconnaissance directe. Autre technique, la géométrie de la main. C'est relativement grossier, il y a des erreurs de conviction, c'est du 0,5% environ de faux positifs. Oui, mais c'est très rapide, c'est très simple, le test est robuste, et c'est ça qui permet aujourd'hui à beaucoup de cantines scolaires en France d'avoir un petit garçon qui vient, qui lève sa main devant l'écran, et pof, on sait que c'est lui, tout est résolu. Les parents de cet enfant ne se posent pas d'angoisse métaphysique majeure parce qu'ils savent que c'est un petit fichier totalement isolé qui sera effacé à la fin de l'année, de la forme de la main un peu grossière, mais ça évite les cartes, ça évite de noter. Et il n'y a plus quelqu'un qui fait des petits bâtons devant le... Donc, la dernière technique en résumé pour accélérer, c'est la photo. la photographie d'identité, nous y avons fait allusion avec Bertillon, ça a été la première démarche à laquelle la seconde des dermatoglyphes, c'est-à-dire des empreintes digitales, a été immédiatement ajoutée. Cette photographie, vous me posiez la question de votre nez tout à l'heure. Le nez ne suffit pas. Comme cette photographie est numérique, on va repérer des points qu'on appelle des points anthropologiques. Alors si je vous dis que c'est le point sous-orbitaire, le point susorbitaire, le point labial externe, le gonion, le pour vos angles de mandibule, l'acanthion, mot entre guillemets, qui est juste en dessous de votre nez, vous allez naturellement sourire et trouver que tout ça fait bien savant. Mais en fait, ce sont des points que l'on repère, qui ont été définis au XIXe siècle, qu'on apprend. Comme sur l'os du crâne, on apprend à définir ces points, à qui on donne des noms particuliers, et on fait des mesures. Eh bien, ces mesures faciales permettent d'avoir très vite la photographie de la face et de comparer avec le fichier, la photographie de la face. La méthode est la plus fragile de toutes parce que la face, on se modifie, on se masque, et ceci est fragile dans l'ensemble.
Toutes ces méthodes sont-elles utilisées indifféremment pour l'identification et l'authentification ?
Merci d'ajouter systématiquement l'authentification avec l'identification, puisque ça marche ensemble. Authentifier, ça veut dire prouver que je suis qui je prétends que je suis, en plus de l'identification rapide. Alors, ces techniques, là encore, se heurtent pour leur développement à des questions de coût. En France, nous avons au moins deux industries extraordinaires dans ce domaine. Je pense notamment à la Salgem qui a pris une grande avance dans ces différentes techniques et qui choisit surtout la détection d'empreintes digitales parce que c'est ce qui est le plus simple, c'est ce qui est le plus rapide, moins agressif pour les gens. Les gens, si, mais bon. Ensuite, dans nos futurs papiers avec ces techniques biométriques, les points incontournables seront probablement d'avoir la photographie de face, pour lequel, vous le savez, en étant allé aux États-Unis, ces photographies numériques, ou même dans le métro, où on vous demande pour ces papiers d'identité d'avoir désormais la silhouette triste, vous n'avez plus le droit de sourire, vous êtes prié de ne pas tourner la tête, d'être strictement en face de l'écran. Bref, on retourne un petit peu en arrière à Bertillon. Pourquoi ? Eh bien, pour qu'on puisse établir et que la machine, automatiquement, reconnaissent les points dont je vous ai parlé, sans leur donner des noms compliqués, des noms savants, mais ça fait un certain nombre de mesures automatisées, des distances avec des rapports, que l'ordinateur va traiter tout de suite et donc comparer avec sa base de données, qui peut être une gigabase de données. Donc, entre ça et les minuties du dermatoglyphe, on a déjà une extraordinaire capacité à reconnaître, à identifier et à authentifier dans tous les cas. Et ça allège complètement l'individu.
Est-ce que vous auriez des exemples de recherches prometteuses en matière de biométrie ? Vous nous avez parlé de ce qui est aujourd'hui possible et demain.
Le demain fait toujours rêver et tout futurologue normalement constitué se trompe. Car personne ne lit l'évidence. Mais je crois qu'il faut distinguer deux types de demain. La première catégorie de futur, c'est celle des détecteurs. Pardon, j'ajouterais qu'il y a une constante au milieu de tout ça, c'est notre corps.
Mais qu'on grandit, on grossit.
Voilà, mais à partir du moment où on établit des rapports, on reste le même. Avec votre nez, même si vous mangez beaucoup du jour au lendemain, vous aurez les mêmes proportions de largeur et de hauteur de votre nez. Si vous vous livrez à la chirurgie esthétique, on peut parfaitement s'occuper d'autres segments du corps. La question est peut-être résolue facilement. Mais ce qui est la détection dans l'avenir va faire des progrès considérables en rapidité et en fiabilité. Je vous ai parlé du profil de la main, je vous ai parlé des dermatoglyphes, la photographie de l'iris. Je vous ai dit qu'il faut mettre un gros flash qui éblouit le patient, ou plus exactement, l'homme identifié, il n'aime pas ça. Alors on peut imaginer que dans ces systèmes de détection, il y a un progrès considérable qui arrive. Vous savez que le marché aujourd'hui de cette détection par l'empreinte digitale est un marché qui explose complètement. C'est une affaire qui marche et qui marche bien. Ça simplifie tellement la vie des gens, de ne plus avoir quelque chose, des clés, des cartes à fournir. Donc, voilà pour la détection. L'autre domaine qui fait rêver, c'est l'informatique. À partir du moment où on appelle ces mégabases de données au secours, évidemment, nous y perdons une partie de notre identité propre. Mais de deux choses l'une, ou bien nous vivons comme un sauvage dans la steppe, ou bien nous rentrons dans une société avec ses codes, avec ses règles, avec ses fichiers. Ça marche exactement au même rythme que le code des lois. Nous avons 57 codes en France. Eh bien, les lois, nous nous y conformons. De la même manière, accepter de perdre un peu de soi pour entrer non pas dans un fichier, et c'est ça le danger catastrophique, mais dans des fichiers multiples dont les gens sont conscients qu'ils manipulent des choses qui concernent le plus intime de l'individu, c'est une chose importante. Et c'est ça ma conviction, c'est que la médecine est essentielle comme culture de réflexion pour limiter les écarts possibles de ces fichiers, parce que la médecine existe à côté de cette CNIL. En France, nous pouvons nous enorgueillir d'avoir, en 1978, eu ces lois informatiques et libertés que les gens, les hommes et les femmes de notre pays transgressent très peu. Eh bien, on peut imaginer que le vrai développement considérable de cette technique, parce qu'on ne va pas changer de forme demain, hein, on ne va pas avoir un pied en plus, on ne va pas avoir une... Ce sera vraiment cet outil informatique qui doit gagner en sécurité, qui doit gagner en fiabilité, qui doit gagner en sûreté et qui doit gagner en facilité pour respecter vraiment l'individu. Le droit d'accès, de contrôle aux fichiers. Mais la majorité des gens ne le savent pas. La majorité de nos concitoyens ne savent pas qu'en écrivant avec sa plus belle plume et une petite lettre postée de n'importe où à la CADA, Commission de droit administratif, eh bien, on a communication de son dossier. Si on est dans un état de droit comme nous le sommes, nous pouvons nous en remettre à des autorités, une organisation d'État qui fonctionne bien pour la liberté de l'individu, pour la préserver.
Je vous propose de marquer une courte pause avant de nous retrouver pour la suite de notre émission. Nous retrouvons le professeur Cabanis sur le sujet de la biométrie. Vous nous avez dit que les techniques d'identification, enfin les fichiers biométriques contenaient l'identité la plus intime des individus. Est-ce que c'est pas un peu fort de considérer que nos empreintes digitales représentent notre identité la plus intime ?
Merci de redresser ma maladresse. Quand j'utilise le mot « intime », effectivement, on peut lui donner un certain nombre de significations. Dans mon idée, cela voulait dire l'intimité la plus précise. Bon. Au plan de l'intimité, le mot « intimité » soulève une autre question qui est celle des parties cachées de l'individu par opposition aux parties visibles. Les techniques utilisant la biométrie humaine. On ne parle que de biométrie humaine. Le nom de la société que j'ai l'honneur de présider, cette SBH, fondée en 1932, eh bien, cette biométrie humaine ne s'occupe à l'évidence, comme il s'agit simplement de reconnaître, d'identifier ou d'authentifier, ne correspond qu'aux parties émergées des vêtements. La face, les mains, les yeux, c'est tout à fait évident. Mais il y a la partie cachée de l'individu, c'est-à-dire la partie interne du corps humain. C'est un autre domaine qui, là, relève de la science pure et qui relève de la médecine. Et quand je dis médecine, c'est en grand, c'est-à-dire la médecine et la chirurgie. Voir l'intimité, c'est-à-dire ce qui est caché par la peau qui revêt le corps humain. Eh bien, il faut faire appel à des techniques d'imagerie. Je l'ai dit précédemment, le scanner Ionosix, l'imagerie par résonance magnétique, qui montre en coupe le corps humain dans ses différents viscères, l'appareil digestif, l'appareil urinaire, l'appareil du système nerveux central, l'appareil de respiration, dans la région du thorax, avec le cœur, avec le poumon. Et là, c'est la véritable intimité de l'individu. Et c'est la raison pour laquelle il est évident que la véritable reconnaissance de l'individu, celle qui ne peut en rien être modifiée, c'est celle de notre histoire d'homme ou notre histoire de femme avec une histoire médicale. Et c'est là où nous retrouvons la médecine qui défend le corps humain, mais qui défend aussi l'homme, qui défend la femme, qui défend ses valeurs et qui défend son secret. Vous le savez, le secret dans le code de déontologie des médecins est une pierre angulaire comme elle fut la pierre angulaire de l'état de droit dans lequel nous vivons. Protéger le secret de l'individu, c'est le fondement de notre société. Eh bien, nous voyons des choses intimes s'inscrire dans l'histoire d'un individu quand on, sur 30 ans ou 40 ans, par exemple, on met son histoire pathologique en ligne. Si on met une prothèse dans la hanche d'un monsieur ou d'une dame de quelques dizaines d'années âgée, eh bien, cette prothèse sera sa forme à elle visible à la radiographie seulement et on l'identifiera comme telle. C'est donc, là encore, un souci de clarification auquel nous allons nous atteler à l'Académie de médecine, c'est-à-dire de bien séparer ce qui est d'un côté l'activité de la médecine, de ce qui est de l'autre côté, l'activité légale, et d'un troisième côté d'ailleurs, ce qui est l'activité éthique. Mais cette anatomie intime, c'est l'investigation intracorporelle, où là, effectivement, eh bien, on multiplie tellement le nombre d'organes examinés qu'on sait vraiment exactement à qui on a affaire, et puis on peut le comparer au fil du temps. Mais ça, c'est la médecine, ça, c'est l'exercice de la médecine, et ça ne doit pas être confondu avec le reste.
Je pensais même plus largement au domaine des sentiments. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut l'investiguer en partie grâce aux techniques d'imagerie, mais ça reste quand même du ressort de notre personnalité.
Voilà, je vous remercie. Vous me tendez une perche que je saisis immédiatement, qui est celle de l'IRM fonctionnel. Ça, c'est mon métier. À force de mettre des chiffres sur la forme, maintenant, avec l'IRM fonctionnel, nous mettons des chiffres aussi sur les fonctions. Et de ces fonctions, nous faisons d'autres images. Effectivement, ceci est une nouvelle dimension tout à fait considérable de ce que nous voyons, mais nous n'y sommes pas. L'un de mes élèves, très brillant et illustre personnage de l'Académie des sciences, mon ami Denis Le Billan, montre qu'il y a une nouvelle mode, probablement une nouvelle compréhension de l'analyse de propagation de l'influx nerveux. Et que cette propagation de l'influx nerveux s'accompagne d'une augmentation de calibre de l'axone. De l'axone, c'est-à-dire la cellule nerveuse dans le cerveau et la moelle épinière dans le système nerveux central. Alors ça, effectivement, c'est fascinant parce que on a une autre intimité, on a une autre biométrie, on a la biométrie du fonctionnement. Est-ce que cela va nous permettre d'investiguer plus ? Non. Tranquillisons-nous, il faut encore beaucoup de dizaines d'années pour voir les sentiments, ouvrez et fermez les guillemets, beaucoup de dizaines d'années pour voir l'intelligence, non. Soyons calmes, nous localisons sur l'encéphale en routine et tous les jours les aires de la vision, les aires de l'audition, les aires de certains calculs, mais les choses sont très variables d'un homme ou d'une femme à l'autre.
Merci pour ces précisions. Je voudrais revenir au passeport biométrique. On a eu l'occasion pendant toute l'émission de voir que c'était une appellation quelque peu impropre. Comment on pourrait le rebaptiser pour traduire ce qu'il est vraiment ?
De manière toute simple, un passeport morphologique. Morphologique, ça veut dire la forme. La biométrie, c'est l'outil. Ce qui est important, c'est qu'on voit la forme de l'individu. Grâce à l'informatique, on reconstitue la forme, puisque la photographie est numérique, puisque l'empreinte digitale est numérique. Donc, je crois que ce mot de dire morphologique simplifierait beaucoup de choses. Morphos, en grec, là encore, hein, la médecine est terrible, mais elle s'inspire. Et sur la forme, c'est beaucoup plus précis. Ça correspond à la réalité de la chose. On regarde la forme de l'individu qu'on engrange dans une base de données numérique, c'est l'informatique, et sur lequel on fait des comparaisons avec le fichier de nature biométrique. Mais ne rentrons pas dans l'outil, restons en deçà. On s'occupe de la forme morphologique, formelle, enfin, il y a plusieurs idées beaucoup plus intelligentes que celles que je ne saurais avoir, madame.
Est-ce que vous auriez quelque chose à dire pour terminer cette émission ? Une autre remarque ou une invitation ?
Volontiers. Je vous ai fait part de ma double admiration. Ma première admiration est celle de la Cité des sciences de la Villette qui organise des expositions, un suivi d'expositions intelligentes qui ont cette capacité d'instruire les gens qui ne le sont pas ou qui ne le sont moins en sachant vaincre justement cette réticence. L'une des expositions qui m'a le plus séduit par sa compréhension et sa pédagogie est celle, justement, qui porte le nom de biométrie. Je trouve que sur 300 mètres carrés, la commissaire de l'exposition m'avait dit qu'effectivement, ce n'était pas très grand, et ramasser une histoire et une exposition des techniques et des motifs tout à fait remarquables. Avec mon admiration, j'ose apporter mes encouragements à chacun pour comprendre, piger, voir et analyser ce qu'est vraiment cette biométrie humaine et chacun en sortira plus intelligent, comme moi, le premier. J'y ai appris beaucoup de choses.
Eh bien, merci encore pour la clarté de vos explications et nous espérons vous revoir sur notre antenne bientôt.
Merci madame et bravo pour votre savoir.